mais les mélomanes.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà.
Un orchestre est un monde. Un monde où chaque personne vient avec son propre instrument, son propre talent, pour jouer ensemble le temps d'un concert avec, pour seul idéal, de trouver l'unisson, d'en exprimer la mesure, d'atteindre l'harmonie. Seulement le temps d'un concert.
Plus rien.
Chers auditeurs mélomanes, bonjour. Alors, la musique classique est un univers, des univers absolument énormes, gigantesques. Il y a des montagnes que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, que tout le monde peut nommer. Et puis, il y a des lieux familiers, mais dont tout le monde ignore le nom. Et oui, la musique, on trouve ça en littérature ou ailleurs. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle des inconnus célèbres. Et il y en a un dans la région. Oui, il y en a un dans la région. Inconnu, pas totalement. Connu, pas vraiment non plus. Alors, allez, petite énigme, petite devinette. Mais vous avez tous entendu ça. Je suis né le 15 février 1899 à Lodève, dans l'Hérault. Mais je devais avoir 3 ans lorsque mes parents sont venus s'installer à Montpellier, où j'ai passé mon enfance et où je suis resté jusqu'en 1913. Plus je songe à ces premières années, plus je me rends compte que ce fut ma chance. Je n'ai eu aucune envie de jouer les enfants prodiges, mais si j'essaie d'expliquer mon existence de musicien, comment éviter de remonter à ce que furent mes débuts, mes premiers essais, mes premières tentatives ? Ma mère adorait la musique et, violoniste elle-même, a voulu me faire apprendre le violon. Lorsqu'elle m'a conduit chez un professeur, je devais avoir 8 ans, j'ai presque eu une crise de nerfs à la fin de ma leçon. L'étude d'un tel instrument me paraissait atroce. Le violon, avec ses cordes sur lesquelles il faudrait sans défaillance promener un archer, m'a semblé à la fois horriblement grinçant et compliqué. Je ne serai jamais musicien, ai-je pensé une fois dans la rue. Après quoi, découvrant le piano, j'ai tout de suite et tout aussi précisément senti qu'au contraire, là était mon avenir, que c'était grâce à lui que j'allais sans doute accomplir ma vie. Et j'étais pourtant très, très jeune. Effectivement, il était très très jeune. Il s'appelait Georges Auric. Georges Auric, ce musicien qui est né à Lodève. Alors, on se dit, qui sait, jamais entendu parler, peut-être certains d'entre vous se disent cela, mais la musique que vous avez entendue tout à l'heure, eh bien, c'était le générique des débuts d'un film très célèbre, La Belle et la Bête, d'un certain Jean Cocteau. Car Georges Auric, on le connaît surtout pour ses musiques de films, notamment avec Jean Cocteau, pour les films de Jean Cocteau, pour Le sang d'un poète, pour La Belle et la Bête, pour le Orphée, pour Les parents terribles, et ainsi de suite. Et il a écrit beaucoup, 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 beaucoup de musiques de films. Il n'a pas écrit que des musiques de films. Alors, très précoce, oui, 14 ans, on découvre qu'il est tellement doué que son professeur de Montpellier, Louis Combes, se dit non, pas rester, il faut qu'il aille à Paris, il faut qu'il découvre les vrais musiciens parisiens. Et le tout jeune Georges Auric va monter avec ses premières partitions, ses premières musiques, et il va être accueilli avec une très grande bienveillance par un certain Maurice Ravel. Maurice Ravel, le boléro, bah oui. Maurice Ravel qui était une sommité, un grand nom de la musique. Puis il y aura aussi Albert Roussel, un peu moins connu aujourd'hui, un peu oublié, qui était aussi un grand compositeur de cette époque-là. Voilà. Et il y aura aussi, très vite, il va être très très doué, même pour écrire. Il a un talent d'écriture. Vous avez entendu, ça c'est un petit peu plus tard, où il a écrit ses mémoires, qui sont publiées sous le titre « Quand j'étais là ». Il a écrit aussi beaucoup de critiques musicales. Et il va notamment, à 14 ans, publié dans une revue musicale de Lyon, qui sera une des revues les plus prestigieuses, qui deviendra après une revue française, elle ne sera pas que lyonnaise, de musique, un article sur un pianiste un petit peu plus âgé que lui, un compositeur un peu plus âgé que lui, qui débute, qui est Erik Satie. Et il va écrire une critique sur les premières pièces d'Erik Satie, qu'il va envoyer à Erik Satie lui-même, qui va vouloir le rencontrer, et ils vont devenir amis. Mais le piano, oui, il préfère le piano au violon quand même. Hein. Allez, une pièce de ses débuts encore, qui date de 1919, un prélude pour piano. Voilà, un prélude pour piano, une des œuvres de jeunesse de Georges Auric. Il a à peine 20 ans lorsqu'il compose cela. C'était Mathias Weber qui jouait cette pièce pour nous, pour vous. Alors, il arrive à Paris. Alors, vous savez que Paris, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions à cette époque-là, les années 10-20, Paris, c'est le grand lieu de la musique. Hein, pas seulement, mais du théâtre, de la littérature. C'est une capitale culturelle comme elle l'a rarement été, comme elle... Peut-être elle ne l'a plus été depuis. Il va rencontrer notamment, c'est une troupe célèbre dont j'ai plusieurs fois parlé à ce micro, notamment quand je vous parlais du Sacre du Printemps, les Ballets Russes. Hein. Et il va composer pour les Ballets Russes, parce qu'il va être aussi introduit auprès de ce groupe des Ballets Russes, Diaghilev, par quelqu'un qui est très proche des Ballets Russes, un certain Jean Cocteau. Hein, je vous parlais de Jean Cocteau, il a travaillé pour le cinéma avec Jean Cocteau. Jean Cocteau, et puis derrière Jean Cocteau, il y a d'autres musiciens français. Il y a ce qu'on appelait le groupe des six, ou les six même, hein, avec Arthur Honegger, Darius Milhaud, Louis Duret, Francis Poulenc, Germaine Taillefer, car il y avait une dans les six aussi. Et ils vont faire un tas de choses autour notamment de ce catalyseur qu'aura été Serge de Diaghilev et ses ballets russes. Beaucoup de ballets, une troupe de ballets. Alors notamment, en 1923, il va écrire sa première grande partition pour les ballets russes, Les Fâcheux. Alors, Les Fâcheux, c'est une pièce de Molière. Alors, ça commence comme une musique de scène, et puis, ça devient plus, ça deviendra un ballet, une suite. Allez, le début des Fâcheux.
Thank you.
Georges Auric, Les Fâcheux, son premier ballet important, une œuvre qui date de 1923. Alors, vous entendez dans cette musique, mais il aime bien s'amuser, quoi. Il y a une espèce de bonne humeur. Alors, il faisait partie des Six, le fameux groupe des Six dont on a parlé, dans la musique, l'histoire de la musique française, hein, donc on est au début du XXe siècle. Il était le Benjamin et puis un peu le plus turbulent, hein, on l'a considéré comme vraiment le plus turbulent et le plus radical des compositeurs du groupe des Six. Il va rencontrer d'autres gens turbulents dans la musique, et des novateurs, des gens radicaux. Stravinsky, par exemple. Stravinsky, qui a composé le Sacre du Printemps, déjà derrière, à peu près à la même époque où Auric compose Les Fâcheux, et on donne Les Fâcheux pour la première fois avec les ballets russes, il sera aussi pianiste dans une pièce de Stravinsky qui est pour chœur, percussion et puis des pianos. Il y a quatre pianos. C'est Noces de Stravinsky. Je vous en ai un petit peu parlé lorsque je vous ai parlé de l'histoire du soldat dans une précédente émission. Eh bien, il sera un des pianistes qui jouera, qui participera à la création de cette œuvre. Et puis, c'est quelqu'un de radical. Hein. Je vous ai parlé, c'est Ravel qu'il a été très bienveillant au début de sa carrière, qu'il a accueilli tout jeune, 14 ans. Hein. Et puis, Ravel, il va avoir des relations compliquées avec cette musique-là, parce qu'il va, le groupe des Six va rejeter Ravel, et Auric sera un des plus radicaux, et puis il va le re-admirer. Et en 38, à la mort de Ravel, il écrira un magnifique article dans la presse, où il reconnaît et dit, à d'époques, je le rejetais, et puis à d'autres époques, mais ça reste un très, très grand monsieur, Maurice Ravel. Hein. Ça reste un très grand compositeur. Mais Auric, ces paradoxes-là, ça ne le gênait pas. Et il va être un des compositeurs qui va s'intéresser au cinéma, puisque en 1927, premier film parlant, le fameux chanteur de jazz, ça y est. Alors, la musique pour le cinéma, on en faisait déjà. Mais là, ça va être de la musique enregistrée pour le film. Il nous rend compte de ça lui-même dans un interview, un entretien qu'il a eu en 1959 avec la télévision française, avec l'ORTF. Hein, c'était Claude Samuel qui l'interrogeait. Alors, précision, 1959, sinon vous n'allez pas comprendre des allusions. Pour les historiens du cinéma, c'est clair, pas pour tout le monde forcément. C'est l'époque où des jeunes cinéastes turbulents aussi vont faire leur premier film, Godard, Truffaut et d'autres, et c'est ce qu'on va appeler la nouvelle vague. Vous allez comprendre pourquoi je précise cela.
Évidemment, il y a 30 ans, si on m'avait annoncé que j'écrirais des chansons, on m'aurait beaucoup étonné, puisque j'étais considéré comme un des éléments les plus révolutionnaires et les plus agités de mon époque. Il y avait déjà des nouvelles vagues à ce moment-là. Maintenant, il y a des vieilles écumes, mais j'étais à ce moment-là une nouvelle vague.
Le groupe des Six.
Eh bien, à ce moment-là, nous étions des gens très sérieux, mais je dois vous dire que j'ai toujours aimé les chansons, j'ai toujours aimé un certain genre de la chanson, qu'elle soit française, qu'elle soit d'ailleurs anglaise, qu'elle soit américaine, et j'ai été enchanté des années ayant passé, à mon tour, d'écrire une chanson, et ceci n'avait rien de déshonorant.
Est-ce que ça pose des problèmes spéciaux pour un compositeur dit sérieux ?
Oh, vous savez, moi, les problèmes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des difficultés qu'on essaie de résoudre comme on peut, mais ce ne sont pas des problèmes, vous savez, qui vont m'angoisser. Je crois que ça serait très grave, au moment où on écrit une petite œuvre légère, de ne pas dormir de la nuit la veille et de se demander comment on va arriver à l'écrire. Non, non, moi, j'ai écrit tout ceci très spontanément et d'une façon d'ailleurs très imprévue. Je n'avais jamais songé à écrire des chansons, quoi qu'en les aimant, mais j'en ai écrit parce que j'ai été un beau jour appelé à composer pour le cinéma.
Oui, précisément, c'est là où je voulais vous amener. Votre première chanson qui est écrite pour le cinéma, c'est déjà un peu d'histoire ancienne pour vous.
Ah, monsieur, ça se passait en 1931, je crois. C'était avec René Clair, pour lequel j'avais écrit la musique d'À nous la liberté. Et dans À nous la liberté, on chantait déjà.
Il ne faut pas penser au mariage quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par là. Contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux corps. vieux copain l'interrompt. Les femmes sont de tous côtés. Quand nous verrons le bout du monde, il sera temps de s'arrêter.
Partout, si l'on envoie l'histoire, partout, on peut vivre et chanter.
Mais si « À nous la liberté » est votre premier film à chanson, ce n'est pas votre tout premier film.
Ah non, mon premier film, je l'ai écrit avec mon vieil ami Jean Cocteau. C'était en 1930 et vous le connaissez, c'était « Le sang d'un poète ». Jean Cocteau avait été passionné dès le début par ce qu'on appelait à ce moment-là le cinéma sonore et nous avons décidé d'écrire un film.
C'est un peu, au fond, vous qui, à cette époque-là, avez contribué à la création de ce qu'on appelait plus tard la musique de film, parce que c'était un style qui n'existait pas, il me semble.
Vous savez, nous étions au début, je vous le répète, de ce qu'on appelait, de ce mot charmant, enfin, le cinéma sonore ou le cinéma parlant, ça peut être ça qu'on disait. Et je dois vous dire que mes meilleurs amis, mes plus charmants confrères, étaient stupéfaits quand je leur ai dit que j'écrivais de la musique pour le cinéma. Ils considéraient que c'était d'une frivolité ou alors d'une bassesse invraisemblable. Ils me soupçonnaient des pires compromissions. Alors que pas du tout, je vous avoue tout simplement que j'ai cru, dès le premier jour, j'ai cru que écrire de la musique pour un film était une chose tout aussi intéressante que d'écrire une musique de scène, par exemple pour le théâtre, que d'écrire une musique de ballet, ou même d'écrire tout simplement également un drame lyrique, comme les gens respectables qui nous ont précédés.
Dans des films qui sont, on peut dire, inspirés, où la musique est inspirée, comme dans Orphée par exemple, justement, est-ce que votre inspiration, votre élan n'est pas coupé par ces limites que l'on vous impose?
Bon, vous savez, je ne sais pas ce que c'est que l'inspiration, je ne sais pas ce que c'est que l'élan, je sais que tout simplement, par exemple dans le cas d'Orphée, mon vieil ami Jean Cocteau me montre un film que je trouve très beau, je le regarde, je demande combien de temps doit durer ma musique et je l'écris tout simplement sans, je vous le répète, me poser des problèmes métaphysiques ou même des problèmes de technique musicale très élevés. Tout ça est très simple.
Tout cela est très simple, comme quoi voilà un compositeur dont on peut dire qu'il a une certaine humilité. Alors, il est dans les premiers, mais il n'est pas tout seul. Tiens, bah par exemple, son compagnon des six, Arthur Honegger, ah bah déjà, il s'est mis à la musique. Alors, c'est un petit compliqué, c'est pas tout à fait la musique de film, c'est la musique pour le cinéma, puisqu'il écrit des musiques pour les films, alors que le cinéma, le film sont encore muets. Bah, par exemple, Arthur Honegger va écrire pour Abel Gance, le grand réalisateur Abel Gance, en 1923, il va écrire une partition pour la projection, comme ça qu'il faudrait dire, de La Roue, et puis en 1927, pour la projection, pareil, du Napoléon. Alors, hein, voilà. Et puis, Darius Milhaud aussi va s'y risquer. La musique de film, il y aurait toute une histoire, mais je laisse une autre émission de cette antenne vous en parler mieux que moi, hein, 24 notes secondes. Ah oui, bah, y en a eu d'autres. Hein. Alors certains, c'était des chansons pour le cinéma. Irving Berlin, voilà, c'est du côté des Américains. Irving Berlin, ou Gershwin, ou Rogers, Cole Porter, ou même Friedrich Schlander en Allemagne, qui a écrit la chanson, vous savez, des Fesche Lola pour l'ange bleu de Sternberg. Et puis d'autres ont commencé par écrire des musiques pour les projections, et puis on arrivera à la musique de film. Oh, l'Amérique va dominer cette affaire-là, avec des Alfred Newman, les Max Steiner, les Korngold, Rossa, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il n'empêche que Georges Auric va continuer à faire de la musique, pas pour le cinéma, il ne va pas faire que ça. Hein. Tenez, petit intrant impromptu pour flûte et piano. J'ai bien dit petit.
Thank you.
Je vous avais dit petite impromptu, n'est-ce pas? Une pièce très courte. Alors, George Rick s'intéresse aussi au jazz. Hein, alors, il n'est pas le seul. Hein, le jazz est la musique que l'on découvre pendant ce qu'on a appelé les années folles. Hein, donc, et puis, dans les années qui vont suivre. Et il aimait, ils ont même essayé de faire du jazz, hein, ces musiciens, Rick et ses copains. Plus ou moins réussi. Il y a un pianiste, hein, c'est l'époque de ce qu'on appelait le bœuf sur le toit, un cabaret. Et il y avait un pianiste qui a fait ça très bien, qui est Jean Wiener. Je vous en parlerai peut-être dans une autre émission. Pour les amateurs, si ça vous dit quelque chose, pour les moins jeunes qui sont à l'écoute, pour même presque les vieux, hein, il y avait une émission qui s'appelait « Histoire sans parole ». Avec une musique au piano. C'est Jean Wiener qui a créé cette musique-là. Et il s'est beaucoup amusé avec le jazz et la musique classique aussi. Et ben voilà, il adorait le jazz. Il en fait état dans un article consacré à une publication du pape de la critique jazz de l'époque, Hugues Panassier, hein, où il admire Duke Ellington, Louis Armstrong. Il dit ce qui est formidable avec le jazz, c'est de la musique qui ne se répète pas. On peut réécouter, à chaque fois c'est nouveau, à chaque fois c'est différent. Alors que parfois la musique classique, il y a des chefs pas très inspirés, eh bien, c'est ce qu'il appelle de la musique en série. Il dit, non, le jazz, c'est pas de la musique en série. Alors, cette musique de jazz, bah peut-être que on va la retrouver dans certaines de ces musiques de films. Tenez, par exemple, le générique d'un... Alors, le titre peut faire sourire dans une émission sur la musique classique. Du Rififi chez les hommes, un grand classique du film noir français, film de Jules Dassin. Et la musique, elle est de Georges Auric. Rififi chez les hommes, générique de Georges Auric. Vous trouverez tous les détails sur le site de l'émission. Voilà, en espérant que vous aurez éprouvé la même sympathie que nous pour ce compositeur local. Et puis nous allons terminer avec la fin, le générique de fin, avec quelques petits morceaux de dialogue de La Belle et la Bête. Et à bientôt pour une prochaine émission.
Je vous en prie.